Pourquoi que tu me regardes comme ça ?
Des fois, cette émission me touche. J'aime bien le vivre à côté de toi, Mimi.
Et c'est sur l'autre radio ?
Quand le temps se rafraîchit, on aime serrer des mains plus chaudes que les nôtres. Et justement, c'est un jour où je vous propose de vous prendre par la main. J'ai envie de vous embarquer avec moi. On va se cacher quelque part entre les pages froissées d'un vieux carnet d'idées, dans les bruissements d'un film encore en devenir. On va s'imaginer au XVIIIe siècle. Alors pas dans les manuels d'histoire un peu poussiéreux, non. Je vois plutôt une lumière assez douce, un souffle de vent dans les rideaux d'une chambre inoccupée au moment où la caméra s'allume. C'est un peu là que notre invité du jour a posé son chevalet d'écriture, ou c'est ici que s'installe en tout cas son imagination en ce moment pour dessiner les contours de son premier long métrage de fiction. Mais avant de l'y retrouver, faisons un détour si vous le voulez bien, car cette histoire en écriture, elle se nourrit ici, elle fait du lien maintenant dans une salle de classe de notre département. Notre reportage aujourd'hui nous emmène auprès de lycéens face à la réalisatrice. Des regards qui se croisent, des yeux étonnés de tout le travail que représente la préparation d'un film et des idées qui jaillissent ici aussi. C'est un atelier organisé bien sûr par l'association Atmosphère 53, et c'est d'ailleurs grâce à cette association que vous connaissez bien que notre invitée Ananda Safo, réalisatrice, est actuellement en résidence d'écriture pour ce projet dont je vous parle. On entendra d'ailleurs la voix de notre passeur d'images, Wilfried Jude, le co-directeur artistique de l'association Atmosphère 53, qui veille toujours à ce que le cinéma, sous toutes ses formes, continue de souffler sur la Mayenne. Aujourd'hui, cette émission nous fait enjamber les siècles et on reviendra bien sûr au présent ensuite avec la petite annonce au bout du fil et bien sûr aussi avec la chronique Un autre écho de l'écho avec Swazik qui me rejoindra au studio dans quelques instants. Bienvenue à vous, amis auditeurs, je suis Margot et pour commencer cette émission, on se rend donc à Mayenne, je vous le disais, au lycée Lavoisier en plein atelier cinéma avec l'association Atmosphère 53. Écoutez.
On a plusieurs missions, on organise des festivals, on s'occupe des dispositifs scolaires, on fait aussi de l'action culturelle, on fait des séances de cinéma en plein air, mais aussi on a un volet résidence d'écriture cinématographique. Donc le principe est qu'on fait un appel à résidence et ensuite des artistes, des réalisateurs ou réalisatrices peuvent candidater avec un jury. Et cette année, on a retenu le projet de Ananda Safo, L'Indomptable. Titre provisoire. En fait, le principe de cette résidence d'écriture cinématographique, c'est de donner un écrin de travail de bonne qualité pour l'artiste, pour qu'il puisse développer son projet et ensuite avoir quelque chose qui lui permette d'aller chercher de la production. Ça permet aux artistes résidents, grâce à la bourse qui leur est attribuée, de pouvoir un peu avoir l'esprit tranquille et d'avoir au moins devant eux un vrai moyen de travail autour de leur projet.
Il y a des interventions auprès des publics également, du coup, de prévues dans cette résidence.
Alors, ça fait partie effectivement de la mission du lauréat ou de la lauréate. On met en place des ateliers. Ces ateliers sont rémunérés en plus de la bourse pour que le résident ou la résidente puisse montrer son travail et puisse s'inspirer comme ça à travers les ateliers pour l'avenir de son projet.
Et donc aujourd'hui, on est au lycée Lavoisier. Qu'est-ce qui est en train de se préparer avec les lycéens ?
Là, elle travaille avec la section des premières spécialités arts plastiques et les premières spécialités cinéma audiovisuel. Et donc, ils vont interpréter un peu une partie de son scénario, enfin, j'allais dire des séquences qui sont choisies dans le scénario, et ils vont se les approprier, soit pour réaliser une séquence, soit pour les réinterpréter plastiquement.
C'est l'occasion pour les jeunes de découvrir un peu l'envers du décor entre un film qu'ils peuvent découvrir en salle et réellement les différentes étapes de tournage et de préparation d'un film.
Oui, alors bon, comme il y a l'option cinéma, ça fait partie de leur apprentissage, mais effectivement, les arts plastiques vont découvrir ça aussi, tout en s'appropriant l'univers proposé par Ananda plastiquement. Donc effectivement, c'est un processus qui est à l'œuvre, qui est long. Ananda, quand elle a présenté son travail, leur a aussi montré des projets de films qui n'ont malheureusement pas abouti. C'est un peu parfois le dur métier de réalisatrice.
Allons justement voir auprès des lycéens où est-ce qu'ils en sont de ce projet. Je me tourne d'abord vers Lorna, Sarah et Laura, qui sont-elles sur la partie costume ?
On est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire pour la robe que portera l'actrice. Bah, ça vient de la robe de mariée, l'ancienne robe de mariée de Ananda, qui a bien voulu nous la prêter pour qu'on essaye de faire un truc avec. Il y a aussi un jupon et la petite jupe.
Vous êtes passionnée de costumes ou c'est la première fois ?
Je sais que j'avais déjà fait un peu de couture, mais je suis pas non plus experte. Donc bah, ça met un peu la pression parce que
on n'a jamais fait de aussi gros projets, à mon avis. Donc c'est vraiment une première en fait.
Il y a aussi Kylian qui, le crayon à la main, semble plutôt réaliser des croquis, des dessins.
On est sur la partie storyboard, on visualise très brièvement les débuts du film, donc les différentes scènes et les actions. On donnera les instructions aussi, donc les sons, la lumière et les différents cadrages plus tard. Il faut mettre en valeur à chaque fois les bons éléments et mettre pourquoi pas aussi travailler le champ et le hors-champ, ça c'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure.
Quand tu parles de champ et de hors-champ, qu'est-ce que c'est exactement ?
Le hors-champ, c'est quand on a une action qui se déroule pas dans la caméra. Donc on a les sons, on a la réaction, pourquoi pas, de la personne qui est dans le cadrage, qui peuvent nous aider ou aider la personne qui regarde le film à imaginer elle-même la scène.
Quand tu regardais un film chez toi auparavant ou en salle de cinéma, c'est quelque chose comme ça que tu analysais ou est-ce que finalement la rencontre avec Ananda, ça te permet de regarder le film autrement et d'imaginer comment est conçu un film de manière différente ?
Ça m'est déjà arrivé de me dire « Ah tiens, ça c'est bien fait, par exemple, le son est bien travaillé. » Mais je faisais pas ça à chaque fois que je regardais un film. Mais du coup, ça m'a un peu aidé aussi quand même de rencontrer Ananda. C'est une motivation quand même de travailler avec des gens qui sont dans le métier en fait, qui peuvent nous accompagner tout du long et qui connaissent les fils du métier, qui nous les apprennent au fur et à mesure aussi. Quoi.
Et enfin, c'est Mélissa qui a justement choisi l'option cinéma au lycée Lavoisier et qui répond à mes questions.
Bah là, on a découvert le texte et pour l'instant, on a imaginé comment pouvaient se dérouler les différents plans. Bah, plus tard, j'aimerais devenir journaliste et j'ai vraiment envie de faire des reportages, être au contact des personnes. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait déjà m'initier à ça. J'ai envie d'apprendre et comment ça fonctionne. Je me suis beaucoup posé de questions sur ça et c'est ça qui m'intéressait surtout dans la spécialité. C'est surtout le tournage, la pratique qui m'intéresse le plus dans ce projet.
Alors, quelle est ta plus grande découverte sur le cinéma depuis que tu as commencé cette option et ce travail avec Ananda ?
Je ne m'imaginais pas qu'il y avait tout ce travail à faire avant de commencer à tourner.
Ces ateliers sont autant une découverte artistique pour les lycéens qu'une manière d'apprendre à travailler collectivement.
On a la chance d'avoir les spécialités arts plastiques pour nous aider et je trouve que c'est bien parce que du coup, on ces deux univers assez qui se rassemblent. Donc c'est cool de travailler ensemble et ça va être un beau projet.
De toute évidence, vous avez maintenant hâte d'écouter Ananda Safo, lauréate de cette résidence d'écriture auprès de l'association Atmosphère 53. Oui, justement, on échange avec elle dans quelques minutes, mais avant ça, je vous propose une pause musicale. On écoute ensemble Bolivar, Romantisme.
Je suis pas romantique. Symétrique, je te de te remettre en question. Ce qui est formidable, parce que les relations ont besoin de concessions. Et si nous avions ensemble des enfants, je pense qu'ils seraient pas trop chiants. Ce serait de braves gens.
Ananda Safo, bonjour, merci d'être à mon micro aujourd'hui.
Bonjour.
On a pu écouter Wilfried Jude, co-directeur artistique de l'association Atmosphère 53, nous dire quelques mots sur l'association puis sur le contexte de cette résidence. Pour commencer avec vous, Ananda, comme vous êtes la lauréate de cette résidence d'écriture, résidence qui a déjà commencé, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu votre parcours en quelques mots ?
Oui, bah en quelques mots, ça va être long parce que ça va être difficile parce que ça fait quand même des années. Mais en gros, j'ai fait des études aux Beaux-Arts puis en histoire de l'art avec une option cinéma où j'ai appris plutôt l'aspect technique et à la fois l'aspect théorique, même si je n'ai pas fait d'école de cinéma. Donc, je suis quand même en grande partie autodidacte. J'ai fait un premier film en 2004 qui était un documentaire fait au Sénégal. Bon, qui était très critiquable, on va dire. Il fallait commencer par quelque chose. Et puis, après, j'ai vraiment bifurqué en 2009. Donc, depuis 2009, je ne fais plus que ça, avec aussi, évidemment, des films de commande et où je suis passée par le film institutionnel à certains moments. Mais voilà, premier film autoproduit 2011, avec des expériences en vidéoclips musicaux avant 2009. Et puis depuis, j'enchaîne les projets.
Vous avez déjà eu des expériences de fiction et de documentaire. Quand un projet émerge dans votre tête, est-ce qu'il met du temps à mûrir ou est-ce qu'au contraire, vous passez très rapidement à l'écriture ? Comment est-ce que vous travaillez ?
Ouais, alors ça mûrit très longuement. Là, le projet L'Indomptable, ça fait au moins 3 ans que je suis dessus déjà. Évidemment, au départ, c'est très embryonnaire. Il y avait ce désir depuis très longtemps de travailler autour de l'enfant sauvage, mais je n'ai pas forcément tout de suite la forme et la façon dont je vais le traiter, dont je vais traiter mon sujet. Et donc ça demande énormément de recherche et puis de tests, de voir. Et si, alors ma grande question c'est ça, c'est souvent un travail mental hein, au démarrage, c'est et si je le mettais à cette époque, et si je faisais ci, et si je faisais ça, et qu'est-ce qui est le plus fort en fait ? C'est vraiment chercher... à partir de l'essence du projet, chercher là où il peut se développer le mieux, en fait, et où mon sujet peut s'amplifier, en fait, et prendre en force, en puissance.
C'est une question peut-être trop attendue, et en même temps, elle nous aide à cerner l'univers, je trouve, d'un artiste. Est-ce qu'il y a justement des cinéastes, des réalisateurs, des réalisatrices qui vous influence, qui influence votre travail, qui vous accompagne tout au long de ce parcours dont vous venez de nous parler ?
Alors, c'est drôle parce que j'ai sorti il y a quelques jours aux lycéens, justement, un panel de films qui ont sans doute influencé ce film-là en particulier. Mais j'en vois beaucoup depuis gamine. Je pense que En tous les cas, pour parler de l'Indomptable, ça a été plutôt un livre qui a été le déclencheur, à savoir Sa Majesté des Mouches, qui m'a beaucoup marquée quand j'étais au collège, collégienne, où je mettais même en scène un peu mes frères et sœurs, voilà, où on s'était fait une cabane, et je prenais les choses très à cœur. Et c'est resté très longtemps, même si là, évidemment, c'est des ans sauvagés, mais qui ne sont pas à l'état sauvage tel que je le traite aujourd'hui dans mon film. Mais en tous les cas, ça me posait question. Après, je pense que mon premier choc cinématographique, d'ailleurs, comme beaucoup de réalisatrices, c'est La Leçon de piano. Ouais, de Jane Campion. Et c'est vrai que c'est assez fou parce que dans mon travail, quand je doute, je reviens toujours à ce film. Et toujours à la bande originale de ce film. Comme si c'était ma force, en fait. C'est assez dingue. Après, je pourrais en citer plein d'autres, sauf que c'est vrai que c'est complexe de comprendre comment ça se met vraiment en place. Moi, je suis arrivée au cinéma. Au départ, je ne voulais pas être réalisatrice. Je suis arrivée au cinéma par frustration parce que je travaillais l'image inanimée, notamment la photographie et l'illustration, et que j'arrivais pas à raconter les histoires que j'avais racontées avec ces images inanimées. Et donc j'ai commencé à filmer parce que pour moi, en fait, c'est la seule façon de répondre à cette nécessité-là. Et donc petit à petit, j'ai dû apprendre à raconter vraiment des histoires, quoi. Voilà, et à les mettre en scène. Et donc ça, j'ai appris sur le terrain. Et oui, et donc oui, c'est sûrement lié à énormément de frustration.
Et alors, est-ce qu'on peut dire quelques mots justement sur L'Indomptable, qui est donc un titre provisoire? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire qui s'apprête à être racontée sur le grand écran?
Alors déjà, avant qu'elle soit sur le grand écran, il va y avoir des années. Voilà, c'est la réalité des choses dans le cinéma. Surtout pour un premier long métrage, il faut quand même convaincre. Après, c'est une histoire qui se passe au XVIIIe siècle et qui parle en fait de la rencontre en miroir entre une duchesse. Actuellement, c'est une duchesse, mais c'est en train de changer. Duchesse mayonnaise qui est d'origine polonaise, qui a été mariée à un duc mayennais et qui a, suite à une situation tragique une dizaine d'années plus tôt, pense pouvoir retrouver sa fille alors qu'une enfant sauvage a été récupérée dans les bois et capturée. Voilà. Et donc elle est persuadée que c'est sa fille. Et tout l'enjeu est de mettre en confrontation au siècle des Lumières cette partie sauvage de l'humanité qu'on oublie tous. Et donc je pense qu'il y a aussi un écho avec ce qu'on fait aujourd'hui et le monde dans lequel on est aujourd'hui et de dérives à laquelle on arrive à s'être dissocié totalement de la nature. Et où là, justement, il y a cette confrontation dans ce siècle où on essaie d'être dans le surcontrôle de tout, et y compris de sa propre nature humaine, en fait. Et cet enfant sauvage arrive et vient bousculer tout ça.
C'est intéressant, on parle d'une histoire qui se passe en 1731, je crois que c'est ça. Mais on est forcément influencé par ce qui se passe à notre époque actuellement. Est-ce que on est, on a une manière de poser la caméra, de poser un regard sur les histoires qu'on raconte différent quand on vit une époque comme la nôtre qui est assez complexe?
Je pense surtout que c'est l'époque complexe qui a fait que je me suis dit je me lance dans cette histoire parce qu'elle fait, il y a un écho certain. Après, malgré tout, c'est un sujet que je tiens depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on tient un sujet, on se dit tiens, là c'est le moment. Et je pense qu'effectivement c'est le moment. En fait, je pars aussi de l'époque du XVIIIe siècle où on a énormément de traces d'enfants sauvages en Europe, puisqu'il y en a presque une vingtaine qui ont été référencées. Donc c'est-à-dire qu'il y en a sans doute eu beaucoup plus. Et donc à cette époque-là, on a commencé à s'interroger quand même. Notamment les philosophes ont commencé à s'interroger sur qu'est-ce que la différence, notamment Rousseau, entre un animal et un être humain. Et du coup, est-ce que c'est l'éducation, justement? Et il y a notamment Truffaut, donc d'ailleurs, le film L'Enfant Sauvage va être diffusé à l'avant-scène le 12 décembre, dans le cadre de la résidence, a essayé de répondre à certaines questions par rapport à ça. Il a été très critiqué pour son film et c'est pour ça aussi que je le montre, parce que c'est hyper intéressant de voir à cette époque comment oui, comment est-ce qu'on a essayé de traiter un sujet tel que celui-ci et de s'interroger à notre époque, à nous, comment est-ce que ça résonne. Et si je veux revenir au XVIIIe siècle, si on a commencé à s'interroger à ces enfants-là, alors qu'avant, il y a toujours eu des enfants sauvages, dans toutes les cultures, il y a eu des enfants sauvages. Sauf que pourquoi est-ce qu'au XVIIIe, on a gardé la trace de ces enfants-là? C'est parce que justement, il y avait un écho par rapport aux questions que les philosophes commençaient à se poser justement sur la nature humaine.
Et alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes de ce projet-là?
Après une première phase de... Une grosse phase de recherche, parce que là, la résidence, elle a commencé en septembre. Donc, j'avais déjà la structure qui, je trouve, ne bougeait pas assez, encore à mon sens. Mais du coup, je me suis vraiment penchée sur, principalement sur mes personnages. J'ai essayé de creuser donc, sur les réalités des enfants sauvages de l'époque, mais aussi des enfants sauvages, voilà, et ce que ça implique en termes de réflexion de mise en scène, de ce qui me paraît vraiment le plus percutant, le plus intéressant. Et puis sur des vérités historiques, des vérités du département aussi. Ça passe du patois mayennais au, voilà, donc avec des recherches autour de la langue qui était parlée, mais aussi de l'aristocratie, de la noblesse mayennaise à cette époque-là, et ce qui me place aussi face à certaines réalités et ce qui fait bouger mon projet. Donc là, je dirais que je m'approche d'un séquencier où... Il y a plein de choses qui ont été remises en question pour que les personnages puissent vivre, en fait. Donc là, ça y est, je commence à... Enfin, ça va peut-être vous paraître abstrait, mais au départ, les personnages, ils sont un petit peu caricaturaux. Enfin, en fait, quand ils s'imposent, et donc c'est à force de les travailler, à force de travailler aussi la réalité de tout ce qu'il y a autour. Donc la réalité d'un enfant sauvage, qu'est-ce que c'est? Comment ça a été traité jusque-là? Mais qu'est-ce que c'est véritablement? Donc, c'est se rapprocher du travail, notamment de l'anthropologue Lucienne Strivet, qui a énormément travaillé sur ce sujet. J'ai lu une tonne de bouquins, vu une tonne de vidéos, de conférences d'anthropologues qui traitent de ce sujet-là, pour essayer de nourrir tout ça. Et donc là, aujourd'hui, j'arrive à un séquencier qui n'est pas encore complet, puisque je laisse en fait de l'espace pour que les personnages puissent vivre et qu'il y ait aussi des moments de un peu de vide et d'essayer de respiration, ce qu'on appelle les moments de respiration dans le script. Mais j'ai tous mes moments forts du début à la fin du projet, avec quand même des points encore où je m'interroge, où j'ai pas répondu à certaines questions, voilà, mais c'est en cours de résolution. Et puis derrière, l'idée, c'est d'arriver à un traitement. Donc un traitement, c'est entre le synopsis développé donc que j'ai aujourd'hui et là, ce qu'on appelle une continuité dialoguée, donc où il y a vraiment tout le film. Donc la continuité dialoguée, elle fait une centaine de pages, c'est à peu près une page par minute. Là, le film devrait faire 1h15, 1h20 à l'arrivée. Le traitement, c'est intermédiaire, donc c'est avant les dialogues. C'est une dizaine de pages, peut-être 20, voilà, si je suis bavarde, et qui permet quand même d'avoir à la fois tous les enjeux, tous les différents arcs des personnages, de voir comment les ambiances aussi, les émotions des personnages, de comment tout s'imbrique du début à la fin du film. Ce qui est déjà un gros boulot.
Si on parle des étapes de travail, j'imagine justement qu'à un moment, ça peut saturer un peu, qu'il faut aussi laisser reposer le projet.
Ah oui, c'est essentiel. J'ai des périodes où effectivement, les idées ne viennent pas forcément comme ça, puis d'un seul coup, je me lève et hop, il y a les personnages qui commencent à vivre dans ma tête, et c'est assez magique, en fait. Et puis parfois, après il y a des techniques en fait quand il y a des manques d'inspiration pour se remettre en fait en selle. Et notamment là, je suis une personne qui propose des méthodes en fait d'écriture qui s'appelle Truby et qui est hyper enrichissant parce que dès qu'on est bloqué, en fait, il suffit de se plonger dans son bouquin et puis il apporte un ou deux exercices et bam, ou alors d'écouter une conférence et puis c'est reparti. Donc ça, c'est des petites techniques qui permettent quand même de rester en éveil.
Le temps d'écriture, c'est un moment un peu solitaire, on le disait, mais il y a aussi des moments où j'imagine vous montrer l'état du travail pour le re-questionner aussi avec un regard extérieur. Est-ce que c'est l'atmosphère 53 ou est-ce que vous allez chercher ailleurs ce regard?
Alors, ce regard, je l'ai cherché déjà avant de postuler à cette résidence. J'ai eu déjà des retours de prod qui étaient plutôt hyper enthousiastes, donc ça, voilà, mais qui demandent à lire plus long pour être convaincue. Parce que bon, sur un synopsis développé, ça demande déjà un gros travail de pré-recherche, etc. Mais ça ne suffit pas pour convaincre. Donc, atmosphère, ben, la sélection, ça a été un... Voilà, les ailes pour voler, je veux dire. Ça marque un tournant dans le projet parce que c'est une confiance aussi qu'on m'accorde et une forme de reconnaissance sur cette étape-là. Après, c'est que le début. Et derrière la résidence, ben déjà, je vais tenter d'autres résidences pour être accompagnée par des mentors. Enfin, la plupart, c'est en ce moment voilà, qu'il faut postuler. Et puis, ben derrière la résidence, dès que j'aurai mon traitement, là, je repars à la recherche de structures de production. Donc, évidemment, les premières qui avaient lu, avec le retour enthousiaste, ça va être les premiers à lire. Et puis après, le chemin de croix commence.
Oui, puisqu'on imagine toujours le travail artistique comme forcément lié au sensible, mais il y a une vraie partie qui prend énormément de temps, qui est liée à la recherche de soutien, à la recherche d'aide, à la recherche de partenaires.
Ouais, ça prend beaucoup de temps, et puis des fois c'est démoralisant, et puis voilà, parce qu'il y a beaucoup de non pour quelques oui, et voilà, mais il suffit d'un oui, d'un bon oui, avec la bonne structure pour accompagner le projet. Après, voilà, j'espère, c'est ce que Wilfried disait tout à l'heure, en fait, j'ai montré aux lycéens, il y a quelques jours aussi, des projets qui ont été écrits de longs métrages, deux projets précédents et qui n'ont jamais abouti, en tous les cas pour le moment. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette conscience-là, qu'à un moment donné, les choses peuvent s'arrêter, mais aussi l'envie de, voilà, d'avoir un projet de plus en plus fort pour qu'à un moment donné... la bascule entre le court-métrage et le long puisse enfin se faire.
Oui, on peut imaginer que dans ce métier-là, il faut énormément de persévérance et d'abnégation, finalement.
Bah, c'est que ça, quasiment. Enfin, plus le travail, mais et une toute petite partie de chance, de rencontre. Mais la persévérance, ouais, je pense que c'est la clé, d'ailleurs, pour tenir. C'est pas toujours simple. Mais oui, bien sûr. Et c'est pour ça que... avoir des moments aussi de juste concentrer comme ça pendant les résidences où on est juste concentré sur l'œuvre en question, ça, ben c'est un luxe en fait qu'on n'a pas systématiquement. Donc c'est important.
Merci beaucoup Ananda Safo pour ce temps que vous nous avez accordé. Je le rappelle, vous êtes actuellement en résidence avec Atmosphère 53 pour le long métrage L'Indomptable, qui est un titre pour l'instant provisoire. Merci beaucoup. L'agité du local sur l'autre radio. Et donc, Soizic nous a rejoint en studio, puisque l'on vous retrouve, Soizic, pour la chronique Un autre écho de l'écho. Bonjour.
Bonjour.
Alors, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui?
Eh bien, écoutez, ça tombe bien, comme je continue à ne plus être écolo, eh bien, je vais consommer à tout va, et mon jour préféré ne va pas tarder à arriver.
Eh bien, restez bien à l'écoute de l'autre radio de l'agité du local, c'est juste après la petite annonce au bout du fil. À tout de suite.
Jean-Pierre ? C'est Jean-Pierre ? Allô ? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ?
Excuse-moi, t'es
vraiment con.
Excuse-moi.
Ça te dérangerait pas de sortir pour aller téléphoner ?
Dis donc, oh !
Allô, allô ? C'est Guy ? Bah...
Alors pour la petite annonce au bout du fil, aujourd'hui j'ai avec moi Annie Guinet, coordinatrice de la Ligue contre le cancer en Mayenne, et vous allez nous parler de la date du 11 décembre.
Effectivement, nous organisons un concert, donc c'est de la musique de chambre, il y aura des œuvres de Schubert, Brahms, Schumann. C'est un concert organisé par un de nos administrateurs, Dr Riveau, qui jouera d'ailleurs à ce concert. Il aura lieu donc le mercredi 11 décembre à 20h30 au Théâtre de Laval. Tous les fonds récoltés seront pour la création et soutenir nos ateliers de Myriam. Dans les ateliers de Myriam, il y a de la sophrologie, la gymnastique adaptée, de la socio-esthétique et la psychologie. Ces ateliers donc sont gratuits pour les patients mayennais, mais financé par la Ligue contre le cancer. Donc c'est pourquoi nous organisons ce concert où nous vous attendons nombreux, donc le mercredi 11 décembre à 20h30.
Et alors comment est-ce que l'on fait pour réserver ou prendre sa place, Annie ?
Alors tout simplement, faut aller sur le site Hello Asso, taper les concerts en Mayenne et vous trouverez la Ligue contre le cancer, musique de chambre.
Eh bien, il semblerait que toutes les infos soient bien données à l'auditeur de l'autre radio. Merci beaucoup, Annie, et à bientôt.
Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. L'agité du local sur l'autre radio. Et alors, on est de retour au studio donc de l'autre radio avec Soizic pour la chronique, un autre écho de l'écho. Et alors, Soizic, vous continuez à ne plus être écolo, a priori.
Ah ouais, non, non, je ne suis plus écolo, Margot. Et là, je vais carrément pouvoir me lâcher. On va pouvoir sortir toutes les économies qu'on a faites pendant toute l'année pour dépenser sans compter, acheter notre 12e pantalon fabriqué par des enfants au Bangladesh, se payer le voyage de notre vie à l'autre bout de la Terre avec une empreinte carbone dont on n'aurait pas assez de 4 vies pour rembourser, commencer nos cadeaux de Noël pour acheter le 9e jouet en plastique des enfants avec lequel ils joueront 3 jours, acquérir la même télé géante que mon voisin pour enfin voir en gros plan Cyril Hanouna ou enfin accéder à l'iPhone 42 XRZ de je ne sais plus lequel, enfin bon, voilà. Bref, je vais m'éclater et faire comme ces 67% de Français chanceux qui savent profiter des bonnes occasions pour se faire plaisir. Margot, je vais participer au Black Friday. Alors, ceci dit, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, il y a quand même un truc qui m'interpelle, parce que vous ne trouvez pas que Black Friday, c'est pas terrible comme nom. Vendredi noir, ça rappelle un peu les catastrophes boursières hier soir-là. Et puis en plus, en Occident, le noir n'est pas un symbole de joie ni de fête. Et pourtant, c'est un jour béni. Alors pourquoi vendredi noir? Le savez-vous, Margot?
Eh bien non, mais je pense que vous avez dû faire des recherches, sinon votre chronique tomberait complètement à plat.
Eh oui, comme vous me connaissez bien. Eh bien, figurez-vous que l'origine du Black Friday, en fin de compte, reste assez mystérieuse. Ça pourrait provenir des embouteillages causés par l'affluence des clients qui commençaient leurs achats aux États-Unis les lendemains de Thanksgiving. Ou alors, une autre explication évoque également le vendredi noir des policiers de Philadelphie, chaque année débordés par les célébrissimes matchs de football américain et qui se déroulaient le vendredi suivant Thanksgiving. Bref. Quelle qu'en soit l'origine, les commerçants, conscients que le nom de Black Friday n'inspirait pas la bamboche à tout va, eh bien ont essayé à plusieurs reprises de remplacer Black par Pig, mais rien n'y a fait. Et pourtant, rendez-vous compte, Big, c'est quand même mieux. Gros, grand, opulent, quasi infini, le Graal de l'année. Alors quoi qu'il en soit, eh bien merci quand même aux Américains d'avoir inventé ce jour béni. Et merci bien sûr encore plus à Amazon, sans qui nous aurions mis encore trop d'années avant de participer à cette fête mondiale. Ceci dit, les Américains, une fois de plus, nous battent la flûte parce qu'eux, ils arrivent à dépenser 295 euros par personne et par jour, et nous seulement 250. Vous vous rendez compte, les Américains arrivent en une semaine à dépenser 10 milliards de dollars. Et si seulement tout ça pouvait rentrer dans les caisses de l'État français, eh ben moi j'en connais un qui serait carrément content. Et puis pour vous dire comment c'est chouette quand même le Black Friday, c'est que même la Chine s'y est mise. Alors évidemment, les Chinois, pour ne pas dire qu'ils font comme les Occidentaux, puis parce qu'ils sont communistes quand même, hein, eh bien ont bien choisi une autre date et un autre nom. Mais n'empêche, le 11 novembre, c'est le Single Day, et là les prix valsent à qui mieux mieux, et les Chinois chinent de Pékin à Lanzhou. Alors après, bon, faut pas se mentir, le tout c'est quand même de ne pas être pris dans une bousculade à l'ouverture de notre magasin préféré. Et parce que, bon, vous voyez, j'ai pas du tout envie de faire partie des 12 morts et des 117 blessés du Black Friday 2023, quoi.
Ah, vous voyez, ce Black Friday n'a pas que des aspects positifs et encore, vous ne pensez pas au poids écologique du Black Friday.
Ah, je sens, Margot, que vous allez ternir cette grand-messe de la consommation avec des considérations tristounes. Vous allez nous parler de surconsommation, de la surproduction de cartons d'emballage, des 25% des émissions de CO2 en ville qui sont dues au transport de 2,5 millions de colis qui sont livrés chaque jour à Paris durant le Black Friday. Et puis, tant que vous y êtes, bah, parlez-nous aussi du Green Friday ou du Black Friday? Non, mais ne pas faire exprès de promotion durant le Black Friday ou bien bloquer les hangars d'Amazon par des actions de désobéissance civile. Vraiment, Margot, boring. Allez, n'y pensez plus. Profitez, Margot, profitez. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Ce n'est pas quand l'air sera complètement devenu irrespirable et qu'on n'aura plus assez de ressources pour faire des marchandises qu'on pourra s'amuser. Eh, tenez, vous savez quoi? Eh bien, moi, j'attends avec impatience lundi prochain. Pourquoi? Bah, voyons, Margot, parce que lundi, la fête continue. Après le Black Friday, on va pouvoir s'éclater avec le Cyber Monday. Elle est pas belle la vie.
Merci beaucoup Soizic, toujours pour ce très bel éclairage sur l'actualité. Merci beaucoup, la JT bien du local est arrivée à sa fin. Merci à Ananda Safo pour ce temps accordé à notre micro. Merci à Wilfried Jude bien sûr et merci à Soizic pour cette très belle chronique encore une fois. Nous on se quitte ici et maintenant mais faites confiance à l'autre radio, il n'y a que des émissions de qualité. D'ailleurs votre soirée commence à 19h, ça sera avec l'émission Novorama, l'émission qui vous permet des découvertes musicales dans le style indie rock, pop ou électro. Voilà, si vous voulez étoffer votre culture musicale, c'est le rendez-vous qu'il vous faut. Et ensuite, ne coupez pas votre poste de radio puisque c'est la rediffusion de l'émission spéciale sur la mobilisation des acteurs de la culture, du sport et des solidarités. Puisque vous le savez sans doute, mais la présidente de la région des Pays de la Loire, Christelle Morançais, a annoncé vouloir réaliser 100 millions d'euros d'économies sur le budget primitif 2025 de la région, 40 millions à la demande de l'État, 60 de sa propre initiative. Selon les syndicats, ces économies pourraient peser principalement sur le périmètre de la commission 7, culture, sport, vie associative, bénévolat, solidarité, civisme et égalité femmes-hommes. Alors pour exprimer leur mécontentement, les syndicats d'employeurs et de salariés se sont réunis le 25 novembre au matin devant l'hôtel de région. Dans le prolongement de ce rassemblement, les radios de la FRAP ont réalisé une émission commune pour comprendre les enjeux et donner la parole aux acteurs associatifs de la région. Et donc ça commence ce soir à 21h sur les ondes de l'autre radio. Voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Nous serons avec Pascal alias Monpa Coven, mayennais, compositeur, designer sonore de l'Escape Game, Escape 2222, qui sortira le 1er décembre. D'ici là, soyez bons, allez au cinéma, ouvrez un livre, plongez-vous dans une histoire qui n'est pas la vôtre. C'est aussi ça la curiosité. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh ben, c'était bien, hein.